Trace de lumière, Christian Malaplate.
Ondes poétiques, dans le cadre du Festival des Voix Vives à 7-2023, Radio FM plus 91 FM Montpellier reçoit comme invité Ala Mohammad, poète et réalisatrice d'origine syrienne, et Jean Poncet, poète et traducteur qui se définit comme méditerranéen, européen et citoyen du monde. Bonjour Ala.
Bonjour.
Bonjour Jean.
Et bonjour.
Et bonjour cher public. Avant de parler de poésie, je m'adresse à Ala, réalisatrice de plusieurs documentaires sur le thème de la littérature des prisons. Comment avez-vous abordé ce sujet ?
Le thème de la prison est courant chez nous, dans les pays qui sont contrôlés par des dictatures. Ainsi, le sort de la Syrie, on est gouverné par un régime de dictature, il y a depuis 55 ans maintenant. Et la dictature, ça veut dire, bien sûr, l'ennemi de la liberté, l'oppresseur du peuple, la censure totale, et ça veut dire aussi un peuple libre qui résiste, et l'art de vie. Et moi, je me suis trouvée dans un moment donné de ma vie que le moment est venu pour que j'apporte par mon tour ma parole à travers cette fois-ci le cinéma, parce que je suis cinéaste aussi. Donc j'ai parlé de cette tragédie qui vivent avec nous, comme la vie et comme la mort, c'est-à-dire c'est la prison, l'emprisonnement, l'enfermement, qu'on peut rentrer chez vous, foncer la porte à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit ou à l'aube pour arracher de la maison quelqu'un qui est soupçonné d'être démocrate surtout, qui est soupçonné d'être libre, qui est soupçonné de rêver que le pays soit libéré de la dictature, qui est soupçonné de rêver qu'on connaît la citoyenneté égalitaire, qui est soupçonné d'être un être très courageux. Et moi-même, j'avais mon frère qui était emprisonné pendant 4 ans, parce que c'était, bon, la population syrienne, c'est l'issue, comme toute population, d'une carrefour de civilisation et de culture. Les gens, ils sont très cultivés, éduqués. Donc, personne n'accepte la règne de la dictature et tout le monde révolte. Mon frère était démocrate, était un homme très éduqué, cultivé. Donc, pendant sa vie, il était un ingénieur. Pendant sa vie, il était très éduqué. Et il parlait bien sûr de cette nécessité que la dictature chute et que le peuple syrien possède le choix de son avenir. Et pour ça, il a été arrêté pendant 4 ans. Et en 2011, quand la jeunesse syrienne est sortie dans la rue pour la révolution, pendant la révolution pacifique syrienne, noble, parce que c'était la jeunesse syrienne en 2011, l'issue des maisons très éduquées, des maisons dont les parents sont fiers de l'éducation, de la liberté, de notre histoire, de notre... Alors, ils sont sortis et les slogans, c'était liberté, dignité et démocratie. Et il y a actuellement plus que 500 000 jeunes hommes et jeunes filles en prison. Il y a beaucoup, beaucoup de morts sur la torture. Je vous donne juste un petit extrait. Donc, comment j'ai pensé à faire le sujet ? Comment j'ai abordé le sujet ? Pour moi, c'est mon poème visuel. J'ai fait mes études du cinéma à Paris 8 dans l'OTAN. mon papa, qui était un enseignant d'école, d'école primaire, il m'a envoyé pour réaliser mon rêve. Je suis venue en France 4 ans étudier le cinéma et je suis rentrée. Et il était fier de moi que sa fille, elle est réalisatrice. Mais je n'ai jamais fait de film parce que je ne savais pas quel film je veux faire. Et alors j'étais costumière dans le cinéma, dans les longs métrages pendant... J'ai fait 4 longs métrages, le costume sur 4 longs métrages, des longs métrages qui ont participé à Cannes, à Venise, partout dans le monde. Et quand le moment est venu, je suis devenue maman dans un moment donné, et je suis devenue, en étant maman, beaucoup plus courageuse et beaucoup plus libre. Et j'ai senti que j'ai le devoir par mon tour et j'ai cette nécessité en moi de témoigner. Alors j'ai fait des films sur les écrivains et les artistes emprisonnés, c'est-à-dire les prisonniers d'opinion. C'est comme ça que j'ai fait mes films.
Jean, tout en poursuivant une carrière d'universitaire et de diplomate, vous publiez plusieurs recueils de poésie, des traductions en plus grand nombre, du roumain et parfois de l'anglais. Et en 1997, vous obtenez le prix Lucien Blaga pour l'ensemble de votre travail sur la poésie roumaine. Que représente pour vous la poésie roumaine ?
Alors, la poésie roumaine, ça représente pour moi la poésie d'un pays totalement méconnu en France. Alors que la France est connue, aimée, voire parfois même adorée en Roumanie, les Français ne savent strictement rien de la Roumanie. Moi, j'ai commencé à travailler en Roumanie en 1978. En 1978, il n'existait quasiment aucune traduction en français d'aucune œuvre de la littérature roumaine, ni roman, ni poésie. Les seuls écrivains roumains que les Français connaissaient, c'était les écrivains qui étaient en France et qui écrivaient en français. Ionesco, Cioran, voilà, c'est tout. Pourtant, la Roumanie est un pays comme les autres, qui a une culture, qui a une littérature et qui a une pléiade d'écrivains, y compris de grands écrivains. Donc les circonstances de la vie m'ont amené à travailler en Roumanie dans les années 70, j'ai appris le roumain, et il m'a paru utile, pour ne pas dire indispensable, de contribuer à extraire, à sortir cette littérature, et plus spécialement la poésie, puisque je suis poète, de cette ignorance totale et dramatique. Voilà. Donc depuis les années 80, je traduis régulièrement de la poésie roumaine et ici, au festival Voix Vive de Sète, j'ai la chance que Maïté Vallès-Bled, la directrice, ait admis qu'il fallait effectivement faire venir des poètes roumains. Et donc depuis 2016, je crois, nous avons chaque année au moins un poète roumain qui vient à Sète, et c'est très bien.
Je salue dans le public une éditrice roumaine. Alain, en 2011, lors des événements qui déchirent votre pays, vous avez pris la route de l'exil. Et vous vivez aujourd'hui en France et vous avez publié 2 recueils aux éditions Bruno Doucet, Prête-moi une fenêtre, et Les hirondelles se sont envolées avant vous. Auparavant, vous aviez publié déjà 8 recueils en arabe. Dans votre recueil Prête-moi une fenêtre, édition bilingue arabe-français. Et à propos de votre recueil, votre éditeur Bruno Doucet écrit « De poème en poème, l'auteur cartographie l'absence et son cortège de chagrin, une révolution orpheline, la guerre, les routes de l'exil, les dures conditions de vie des gens qui ont parfois tout perdu, mais qui continuent à vivre et à aimer. Allah, existe-t-il un espoir de retour en Syrie ?»
Le parcours de la question m'a beaucoup intéressée. C'est-à-dire, la question, je considère, c'est pas bienvenue, cher ami. C'est pas la dernière. Vous savez, quand vous lisez, quand vous étiez en train de poser la question, j'ai pensé au poète palestinien Mahmoud Darwish, quand il disait dans un poème « Pourquoi tu as laissé le cheval à sa solitude ?» Il y a dans ce poème un paragraphe qui dit « Les maisons meurent s'ils sont désertés ». Je ne sais pas si nous sommes morts aussi quand on quitte le pays, si le pays est mort quand on est loin, si on est mort quand le pays est loin. C'est une question très philosophique. Et cette alternance entre espoir et désespoir, et c'est ça qui torture vraiment. Il y a, c'est dur cette question. Parce que parfois on a beaucoup d'espérance, et parfois quand on voit tout ce qui se passe dans le monde et les pays démocrates, comment ils trahissent leurs valeurs, on se dit mais mon Dieu, il n'y a plus d'espoir. Parce que nous, on comptait sur les valeurs humaines et sur ces pays qui étaient pour nous comme des murs sur lesquels on peut poser nos têtes et se reposer. Et là, on a l'impression que c'est un peu dur de trouver un lieu où on peut se reposer, à part les valeurs, les idées, c'est-à-dire les choses concrètes disparaissent petit à petit, et ça reste entre nous les idées et les valeurs, les idéals qui nous réunissent tous. C'est pas important que je rentre ou que je rentre pas. L'importance que la Syrie, un jour, devienne libre. Et je suis sûre et certaine qu'elle deviendra libre un jour, parce que c'est impossible que tous ces courages, tous ces gens qui se sont donnés, qui se sont exprimés, qui ont montré leur beauté profonde, leur amour de la liberté. Ils ont brisé le tabou de la peur, le tabou des interdictions, pour chanter la liberté dans les rues chez nous. Et chanter dans les rues chez nous, les amis, ça veut dire la seule réponse, c'est les balles réelles. Parce qu'il y a une dictature qui est en face de vous. Il y a dans une petite région de Damas, c'est Dareya, il y a un groupe de jeunes, ils ont monté une association civile, ils ont fait une manifestation pacifique, ils ont levé des roses blanches et rouges avec des bouteilles d'eau, et ils étaient 500 jeunes hommes et filles. Et ils ont avancé vers l'armée qui les attendait. La riposte, c'était des balles réelles et ils sont tombés. Et comment je peux ne pas croire à ces fleurs et à ces bouteilles d'eau si ils restent suspendus? C'est pas dans ma mémoire, c'est dans la mémoire de l'humanité tout entière.
J'en pensais. J'ai lu que pour vous, la poésie est affaire de partage et de compagnonnage.
Alors, écrire de la poésie est un exercice éminemment individuel, intime, solitaire. Mais ça n'aurait, pour moi en tout cas, ça aurait peu d'intérêt. Ça serait, la poésie n'est pas une thérapie. Donc, écrire aurait peu d'intérêt si ce n'était pas effectivement l'occasion d'un partage. Et il y a plein de façons de partager la poésie, par la publication, qu'on soit éditeur de livres ou éditeur de revues littéraires, ce que j'ai été longtemps, ou que ce soit dans les rencontres avec d'autres poètes, des rencontres avec le public. Et de ce point de vue-là, puisque nous sommes ici à Sète en ce moment, au Festival Voix Vive, je voudrais dire combien ce festival, pour moi, symbolise tout ce que devrait être la poésie et plus largement ce que devraient être les relations entre les hommes. Ce festival, au-delà de la poésie, c'est un lieu de rencontre fraternelle entre les poètes d'un grand éventail de pays, entre les poètes et un public extrêmement varié. C'est une communauté. Et il y a vraiment quelque chose de fraternel. Est-ce que je peux lire un poème ? Parce que ça illustre ça. C'est un poème que j'ai dédié à Ala Mohammad, pour laquelle j'ai une grande admiration comme écrivaine et une grande affection comme personne. Et nous étions ensemble au festival Voix Vive à Tolède, il y a quelques années, puisque ce festival a lieu non seulement à Sète, grande longue version longue, on dirait, mais également dans d'autres villes de la Méditerranée, dont Tolède, Gênes, Ramallah. Et donc, il y a quelques années, j'étais à Tolède avec Allah, et j'ai trouvé que cette réunion de poètes dans les rues de Tolède, qui a une histoire toute particulière dans la Méditerranée. Ça a été la capitale du royaume de Al-Andalus. Dans les circonstances que nous connaissons depuis quelques années, ça me paraissait important. Et donc j'avais écrit ce poème qui s'appelle « Les poètes à Tolède » avec un épigraphe de Lili Boniche, qui était un chanteur musicien algéro-franco-juif. Il n'y a qu'un seul Dieu et nous sommes tous égaux. Et c'est un poème sur la fraternité. Fraternel, à l'ombre du rêve écrasé d'Al-Andalus, marchent les poètes parmi les hommes. Et leurs mots ricochent sur les galets des ruelles. Par les fenêtres, ils entrent dans les maisons, et plus haut encore, grandes synagogues, temples wisigoths, mosquées Bab al-Mardoum, à la rencontre de l'oiseau sacré. Fraternel, il n'a d'autre territoire que le monde, et niche en tout lieu élevé pour l'esprit. Dans l'étreinte des arcades et l'ajourement des clochers, sous le ciel des coupoles, dans la cour des écoles aussi. Alentour, les aliénés d'un Dieu dont ils ignorent le cœur règlent leurs pas débiles sur le pas sanglant des croisées de l'obscur. Cathédrale Sainte-Marie, mosquée du Christ de lumière, synagogue de Sainte-Marie-la-Blanche, mais les mots des poètes disent la lumière de l'esprit qui est un, fraternel.
Jean, il y avait tout à l'heure une volonté de lire de la poésie roumaine, c'est ça ?
Oui, puisque non, tout à l'heure on a dit que je traduisais de la poésie roumaine. Mon éditeur, que j'ai convaincu à la poésie roumaine, me dit qu'il a un plaisir immense à publier des poètes roumains parce qu'il trouve que la poésie roumaine a une fraîcheur que n'a plus la poésie française. C'est pas une poésie d'intellectuel, me dit-il. Je crois qu'il a raison et j'en suis assez heureux. Bon, il y a quelques années, nous avions parmi les comme poète invité ici Georges Vulturescu, qui habite dans le nord de la Roumanie, et j'avais, comme je le fais habituellement, préparer un recueil pour qu'il ait de quoi lire à Sète. Donc, un poème de Georges Vulturescu. Respiration sous une branche enneigée. Une branche enneigée traverse les salles de l'hôpital. La mort pâlit. La mort est saisie de fièvre, elle gémit dans un coin et on peut lui cracher à la figure, on peut lui casser la gueule. Une branche couverte de neige traverse les salles de l'hôpital. Elle secoue son manteau sur la fièvre des mourants. Certains croient sentir le parfum du sapin et de sa résine dans le village de leur enfance. Une branche couverte de neige, l'infirmière penchée au-dessus de mon lit. Elle a des hanches et des saints. Elle apporte des draps frais et distribue des cachets multicolores. Elle patine sur notre fièvre, glisse, fait des saltos, s'approche et on tend la main pour l'aider. « Ne sais-tu pas, dit-elle, que les branches enneigées secouent leur manteau quand on les touche ?»
Merci Jean. Maintenant, on va passer la parole à Alain qui va nous lire quelques textes extraits du recueil.
Je vais d'abord... Jean, merci beaucoup. C'est vraiment réciproque, tout ce que tu as dit. Et avant que ça termine, je suis très heureuse et honorée d'être cette année parmi l'équipe des animateurs du festival Voix Vif. C'est un honneur que Maïté m'a donné et j'espère être à la hauteur. Bon, je vais lire le premier poème. Le livre « Les hirondelles se sont envolées avant nous ». C'est édition Bruno Dessé, 2021. Et j'aurai l'immense plaisir que Charlotte va me partager la lecture en français. « Wa kunna ala tariq, as-sunounu hajarat qablana, wa hajarat ba'daha shurfatu wal-bayt, wa buyutu al-jiran wal-hay, wahdaha al-jibal lam tabrah, تسائل الأنهار والينابيع والضباب حبال الغسيل تترنح تجفف عن الثياب الغياب السنون ابتعدت في الفضاء كالطلقة خلف الجبال ارتمت في حلب في بيروت في الإسكندرية في بغداد في حيفا واستقبلتها السومريات والكنعانيات والبابليات والآشوريات والآراميات بالبخور والبسملة أفيقي من الأخضر العميق يا شجرة الزيتون غادر أهل الأرض الأرض أفيقي يا فلقة المعجزة لن تسمعي نأمة أفيقي أيتها المقبرة وتلطفي يا منافي هاجرت السنون مجزرة مجزرة لا يهجر الأرض الفجر ولا الغياب يهجر لحظة العصر.
Chemin 4. Nous étions sur le chemin. Les hirondelles se sont envolées avant nous. Puis la maison et le quartier tout entier. Seules les montagnes sont restées à questionner, les rivières, les sources et le brouillard. Les cordes à linge se balancent. Elles font sécher les vêtements trempés d'absence. À la vitesse d'une balle, les hirondelles ont pris la fuite pour se jeter derrière les montagnes, à Alep, à Beyrouth, à Alexandrie, à Bagdad et à Haïfa. Les femmes sumériennes, cananéennes, babyloniennes, assyriennes et araménéennes les ont accueillies avec l'encens et la basmala. Réveille-toi du fond, réveille-toi du ver profond, Olivier. La terre a été désertée par ses fils. Réveille-toi, ô cœur du miracle. Tu n'entendras plus le moindre souffle. Réveille-toi, cimetière. Adoucis-toi, exil. Les hirondelles ont migré, carnage après carnage. L'aube n'abandonne pas la terre, ni l'absence n'abandonne le moment du crépuscule.
Il y a une série de chemins dans ce recueil. C'est le chemin de l'exil. Mais je vais peut-être lire un poème du premier recueil « Prête-moi une fenêtre ». Comme ça, on aura là un poème que j'ai écrit à ma mère. Dans chaque recueil, il y a un poème à ma mère qu'elle nous a quittés il y a 23 ans. Ma mère, c'était pour moi la force de la justice. C'était pas une simple maman. C'était un être très courageux et très beau. Et elle avait peur, elle n'avait pas peur de dire son mot en face de quiconque, de dire la vérité, d'affronter, de... et en tout amour envers l'adversaire. Et pour moi, j'arrive pas à être comme elle. Un adversaire, c'est un adversaire. Mais chaque fois que j'ai un adversaire, je me souviens d'elle et je deviens plus démocrate. Et c'était une école de philosophie, cette femme. تغير البيت كثيرا بعد رحيلك وأنا تغيرت وسوريا تغيرت وبيوت الجيران والشوارع والحارات كل مكان في الدنيا صار لحظة عابرة كما الحب قوته أننا في كل لحظة نخشى رحيله فنعرف كم نحب أن يتمهل تغير البيت كثيرا وسوريا تغيرت وبيوت الجيران والحارات والشوارع التي كان يألفها كعبك العالي وتنانيرك الشانيل وجزادينك بظلالها التي كانت تلهث قربك ككلب صغير الأقراط والأساور وسوق الصاغة وضحكتك الذهب تغير البيت كثيرا بعد رحيلك وسوريا تغيرت والبيوت والجيران والشوارع كيف أقولها لك كيف أقلق موتك تهدمت سوريا في الحرب والذكريات يا أمي ليست وطنا
La maison a beaucoup changé après ton départ. La maison a beaucoup changé après ton départ. J'ai changé. La Syrie a changé, les maisons des voisins, les rues, les quartiers, chaque coin dans la maison est désormais fugace, tout comme l'amour, dont la force réside dans notre crainte permanente de le voir disparaître, alors comme nous aimerions le voir s'attarder. La maison a beaucoup changé, la Syrie aussi, les maisons des voisins, les quartiers, le souk des joailliers, les rues si familières à tes talons hauts, à tes jupes Chanel, à tes sacs dont l'ombre haletait près de toi tel un chiot, à tes boucles d'oreilles, à tes bracelets, à ton rire d'or. La maison a beaucoup changé après ton départ. La Syrie a changé. Les maisons, les voisins et les rues. Comment te le dire sans perturber ta mort? La Syrie a été dévastée pendant la guerre et les souvenirs, mère, ne sont pas une patrie.
Dans votre recueil, les hirondelles se sont envolées avant nous, paru aux éditions Brudoncet, vous ne parlez pas de la guerre, ni de la route boueuse de l'exil. Vous dites simplement que l'aube n'abandonne pas la terre, que les hirondelles font leur nid avec la paille du silence, que l'amour demeure le premier alphabet.
Bah oui, si j'ai le temps de parler, si j'ai une petite vie pour parler... Je vais parler de l'espoir, de ce qui nous réunit, de ce chemin qu'on a vraiment essayé depuis longtemps d'ouvrir tous ensemble. C'est le chemin d'aller vers l'autre, le chemin de la liberté et de la beauté. Et ce n'est pas du parole, les amis, c'est vraiment, on a payé notre vie pour chaque mot. Je suis exilée parce que je suis comme ça. J'ai perdu tout et j'ai gagné l'exil. J'ai gagné un pays magnifique, un deuxième pays magnifique. Mais c'est-à-dire, moi, je ne crois pas en la guerre. Pour ça, je ne vais pas parler de la guerre. Je vais dénoncer la guerre. En dénonçant la guerre, on ne parle pas de la guerre. On parle contre la guerre, on parle de la paix, on parle de la fraternité, on parle de la citoyenneté égalitaire, on parle de la liberté, on parle de la beauté, on parle de tout ce qui nous réunit. On parle de notre courage, on parle de cette nécessité absolue de libérer les gens qui sont en prison maintenant, qui sont d'une beauté mais incroyable et que le monde les a oubliés parce que le monde, il parle, je ne sais pas, d'augmentation des prix et on invente chaque jour des crises économiques en oubliant les choses profondes, mais profondes, humaines. Il y a des gens qui creusent pour élargir le terrain de la beauté et de la liberté. C'est pour ça que je ne peux pas parler de la guerre. Je parle de ceux oubliés pour qu'ils ne soient pas oubliés. Moi, je trouve que c'est très important de ne pas oublier les absents. Et je trouve que la poésie, c'est la voix des absents.
Il faut témoigner, dire la vérité.
Absolument, cher monsieur, il faut témoigner. Mais je voudrais vous dire, vous savez, avant, je n'avais pas l'expérience. Franchement. Et quand j'étais exilée, c'est-à-dire ça fait 11 ans, et je dis, on témoigne, yadada. Mais je ne savais pas qu'est-ce que veut dire témoigner. Après 11 ans de témoignage, tout tombe dans l'oubli. Mais c'est hallucinant. C'est hallucinant. Donc, c'est-à-dire, on a l'impression que chaque fois vous dites un mot qui est dans la faveur de la liberté des peuples, il y a une gomme qui efface ça. Et vous regardez, il n'y a aucune trace et il faut témoigner de nouveau. Donc le témoignage, on n'en manque pas. Il y en a à travers l'histoire, tous les peuples qui nous ont révoltés avant nous, ils ont aussi témoigné, mais regardez qu'est-ce qui se passe. Mais il faut toujours témoigner.
On peut l'applaudir parce que vraiment... Alors, j'en pensais à propos de votre recueil « La vie profonde » paru en 2021 chez Jacques-André Éditeur. J'ai lu « Pourquoi aurions-nous peur du néant ? Nous en venons et nous n'en sommes pas morts. C'est de la vie que nous mourons. » Et Jean Poncé, poète et traducteur de poésie, laisse apparaître les failles de l'existence en quelques pages apaisantes et joyeuses, en dépit de la gravité du sujet, la destinée, l'infini et le néant.
Ça, c'est la quatrième de couverture, et je n'en suis pas responsable. Donc, joyeuse, je ne sais pas. Ce qui est vrai, ma mère disait, ma mère est morte à 98 ans, et elle me disait, sur la fin, le plus dur quand on vieillit, c'est qu'on voit mourir tous ses amis. Et je crois que je suis en train d'entrer dans cette phase-là. De telle sorte que la mort, qui était une question qui me touchait assez peu, ou qui me préoccupait assez peu, ne me préoccupe pas au sens de la crainte, mais... D'une certaine façon, je suis forcé d'y réfléchir parce qu'effectivement, je vois partir les uns après les autres un certain nombre de mes amis proches. Alors, je voudrais vous lire deux textes. Un que j'ai écrit pour Michel Baglin, qui était un beau poète, une belle personne qui a été longtemps animateur ici de ce festival. Donc un poème que j'ai écrit après la mort de Michel, qui nous a tous et surpris et abattus. Imperturbée, la Garonne pousse ses flots au pied de la falaise fragile. Là-haut, sur la table orpheline, s'empilent les livres qui attendent en vain l'intelligente caresse de ton regard. Nous, les survivants, ne pouvons plus que mesurer l'éternité à l'aune de la mémoire du travail accompli, des échanges fraternels et des soirées joyeuses. Et le rossignol posé sur ton arbre a beau y proclamer le pur, nous n'y trouvons nul réconfort. Et puis, un autre poème d'où est extrait la citation qui vient d'être donnée, intitulée « Entre deux néants ». L'homme qui gît en ce cercueil, désormais et à jamais ôté à notre regard, à notre voix, comment dire son éternité ? L'éternité, c'est la mémoire de l'eau. Ainsi en va-t-il de l'immortalité de l'âme comme de l'action homéopathique ? On ne peut prouver l'une pas plus que l'autre. Son être de vie est sans doute retourné au néant, mais sa poussière matérielle se joint maintenant et pour toujours à la terre, en un lieu de beauté où nous pourrons désormais nous recueillir, le néant. Le siamois est une langue enfantine qui exprime l'abstraction la plus indicible par les mots les plus simples, du « il n'y a rien » au « il n'y a rien », a écrit le moine peintre en épigraphe de son encre. Pourquoi aurions-nous peur du néant ? Nous en venons et n'en sommes pas morts. C'est de la vie que nous mourons. La vie est un baiser déposé dans le noir par des lèvres inconnues. Merci.
On reprend notre lecture, Alain.
Appartenance. Chaque matin, dans mon exil, je quitte la maison pour me rendre au cimetière. Je sors les jours de fête et de congé, les dimanches et les vendredis, pour déposer une fleur sur la tombe d'une étrangère, dans l'espoir que quelqu'un calme l'affliction des ombres en déposant une fleur sur la tombe de ma mère, là-bas, sous l'olivier. Si les maisons nous demandaient plus tard, après un temps de paix et de silence, à la fin des guerres, pourquoi nous les avons désertées? Lorsque notre petite fille trébuche en cheminant vers la lune, sur un caillou qui la connaît, et connaît ses parents, ses contes et ses aïeux, sa langue maternelle est le premier alphabet, qu'il lui montre le tatouage des amants sur son histoire, qu'il lui montre le henné du sang sur ses pieds nus, et lui dise « Assis-toi là, là où fut le seuil. » Et lui dise « Je fus une pierre dans la maison, et là-bas, à deux prises d'ici, tu sentiras dans l'air la joie. Celles-ci furent les pierres de la fenêtre. » Et en l'espace de deux nuits, tu verras l'éveillé. Ne pleure pas, ma petite. Voici les pierres tombales recouvertes d'herbes. Et là-bas, aux rives du ruisseau, la violette sauvage, avide d'un sourire, t'attend. Elle t'ouvre ses brairies pour t'accoutumer à l'exil. Et si elle exhale un onctueux parfum, sache que, comme toi maintenant, la violette se souvient. وسكبنا على سياج الدار ضوء القمر كي يحرس الدار القمر وأغلقنا باب الفجر وكفنا بالشراشف البيضاء أغراضنا فلا يشتعل أينما حللنا صمت البيت وهجرنا الحليب يرقد في حلة الحليب والعادات ترقد في دلال توقيتها وهجرنا صباح الخير في غرف النوم فلا تجرحنا في المساء القبل وهجرنا الثياب تغط في نومها العميق على الجدران وهجرنا الجدران تنبش في جيوب الفساتين عن النافذة وهجرنا المآذن تحمي ساعة العصر وهجرنا في رفوف المكتبات أبطال الحكايات تحمي حكاياتنا وتجملنا من الأحجار بمرارة المرمر تلك المدن وسلالات الأفراح كانت لنا وتزنرنا بالأغاني فنعود كيفما طاب لنا.
Si les maisons nous demandaient. 2. Sur la palissade de la maison, nous avons répandu la lumière de la lune pour que la lune garde la maison. Nous avons fermé la porte de l'aube et enseveli nos affaires dans le linceul des draps blancs pour que le silence de la maison ne s'embrasse pas. Là où nous nous installons, nous avons abandonné le lait sommeillant dans la casserole, les habitudes sommeillant dans la souplesse de leurs horaires et abandonner le bonjour dans les escaliers à coucher, pour qu'au soir, les baisers ne nous blessent pas. Nous avons laissé au mur nos vêtements endormis, abandonné les murs occupés à chercher une fenêtre dans les poches des robes, abandonné les minerais protégeant l'heure du crépuscule, abandonner les héros des contes sur les étagères, des bibliothèques où ils protègent nos contes. Nous nous sommes fardés de l'amertume de l'albâtre. Ces villes et ces lignées de joie étaient nôtres. Nous nous sommes ceinturés de chansons pour revenir chez nous comme bon nous semble.
Alors on va continuer à découvrir la vie profonde.
Un peu particulier, Maïté Vallès-Bled, créatrice et directrice de ce festival, était jusqu'à l'an dernier, quand elle a pris sa retraite, conservatrice du musée Paul Valéry. Et elle avait demandé à un certain nombre de poètes invités par le festival d'écrire un poème sur un tableau de la collection du musée Paul Valéry. Il en est sorti un très beau livre qui s'appelle « Peinture et poésie ». Et j'avais choisi un tableau d'un peintre que vous ne connaissez pas, mais vous savez ce qu'il a écrit. Il s'appelle Eugène Dabit. Ça s'appelait « Femme marocaine voilée en rose ». Eugène Dabit, avant de peindre, après avoir peint, c'était un très bon peintre, mais il n'avait pas eu de succès. Il s'est mis à écrire, et en particulier des scénarios de films, et vous le connaissez tous, parce que c'est lui qui a écrit le scénario et les dialogues de « Hôtel du Nord ». Atmosphère, atmosphère, est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère ? C'est lui. Voilà. Donc, mon poème « Nouria », d'après « Femme marocaine voilée en rose » d'Eugène Dabit. Petit enfant de l'Atlas, couché les yeux clos dans les vertes pâtures d'Afénourir, tu écoutais le soleil bénir les troupeaux irklaouennes. Entre ciel et terre, ton corps de sauvageonne, lumineuse communion. Aujourd'hui, dans la ouate du quotidien que distillent les persiennes, tu regardes au loin, très loin, sur l'écran du souvenir, bruisser un temps qui n'est plus. Éclat étouffé, désormais l'attente de qui, de quoi est ta seule lumière. Et puis j'ai commencé avec un poème écrit à Tolède. Je voudrais peut-être terminer avec un poème écrit à Ramallah, aussi pendant le festival Voix Vive en Palestine. Fragment de Palestine, peuple d'Aken, semé au vent lâche de l'histoire, on entre dans la demeure de vos pères comme en une prison. Mais qui est le détenu, sinon aussi le maton ? La tombe de vos aïeux vous est interdite. Pourtant, anonyme et solidaire, des mains la fleurissent. 7 années durant, ils t'ont exilé du regard maternel, et ce soir, en cette ville inconnue qui fut la tienne, une femme de rencontre te guide, souriant, comme un défi à leur nuit. Et toi, étranger effaré, tu marches au cœur de la vieille cité, parmi enfants et gravats, quand de son divan éventré, à l'ombre d'un maigre olivier, le vieillard tranche pour toi le soleil juteux d'un kaki. Alentour, roc, roc et poussière, partout identique, seul le béton est frontière. Roc, roc, roc et poussière, les villes sont de pierre, les murs seuls de la prison sont de béton. Le Golgotha même est en prison, sous une dalle de verre sale et les ors d'une religion à l'âme fanée. Et la couronne a troqué ses épines pour du fil barbelé. Mais le sang est le même, rouge dans les veines, noir sur la terre, qui sans cesse le boit.
On continue avec Alain.
Kulla sabahin. أصحو هناك وأصحو هنا الزمن يترك الباب مواربا للزمن فتعبر في فارق التوقيت الذاكرة تمسح الغبار بإصبعها تمحو ما تراكم من مسافات بيننا تداري رمد المرايا كل صباح تختلط الأصوات رنة البيت رنة الباب رنة القلب ورنين النظر زخ الزنازين زخ الدعاء زخ الحياة وزخ القدر كل شيء مبالغ عندنا في اللحظة القصوى بين التضرع والموت يعبر نيزك الصدفة في البدء كان الفقد بين موت وموت نعيش بكل ما في الصدر من نفس مؤونة العمر الطويل من الأنفاس نبددها في لحظة عابرة ألفنا الوداع ألفناه كما لو كان لنا منا مؤونتنا كما لو كان مستقبلنا والبيت والشارع والمدرسة صوت الأمهات على الشرفات يعلن توقيت العائلة الوداع يجمل لوعتنا نقدم للوداع كل ما في الصدر من ضيافة نفتح له صناديق الطرب يختلط الماء بالماء والعماء بالعماء لا القاتل يرى ولا القتيل يرى قبل المعنى قبل الآه آه الله قبل اللغة قبل النطق قبل الألف بيد واحدة كهرقل الجبار يرفعني خلف هذا السور وينفيني ويعميني وفي فارق التوقيت يزرعني بين أشجار الحور والكينة والصفصاف والعناب والورد الفقد
Au commencement était la perte. Chaque matin, je me réveille là-bas et je me réveille ici. Le temps laisse la porte entrouverte au temps et le souvenir se faufile dans cet entrebâillement. Il essuie la poussière de son doigt, efface le cumul des distances entre nous et soigne la conjonctivite des miroirs. Chaque matin, les voix se mélangent, le tintement de la porte, le tintement du cœur et le tintement du regard déferlent les prisons, déferlent les invocations, déferlent les vies, déferle les destins. Chez nous, tout est exagéré. Au moment extrême, entre supplication et mort, passe le météore de la coïncidence. Au commencement était la perte. Entre mort et mort, nous vivons du souffle des poumons. Cette provision d'oxygène, accumulée pendant toute une vie, nous la dépensons en un instant. Familiers, nous sont les adieux, comme s'ils étaient nôtres, nos provisions, comme s'ils faisaient partie de nous, comme s'ils étaient notre avenir, la maison, la rue, l'école et la voix des mères sur les balcons, rythmant les moments familiaux. Les adieux embellissent notre affliction. Nous leur offrons toute l'hospitalité de notre poitrine et leur offrons les coffres de l'extase. L'eau se mêle à l'eau et l'aveuglement à l'aveuglement. Le tueur ne voit pas et le tué n'est pas vu. Avant le sens, avant le soupir de Dieu, avant la langue, avant la parole, avant l'aleph. D'une main, tel Hercule le puissant, la perte me soulève par-dessus cette muraille, m'exile et m'aveugle. Et dans l'entrebâillement du temps, elle me plante parmi les peupliers, les quinquinas, les saules, les jujubiers et les roses. La perte. Merci.
On va terminer cette rencontre poétique avec une lecture de Jean à propos de son recueil « Lumière du silence ».
On n'est plus en Palestine, on n'est plus à Tolède, on est en Provence, qui est mon pays.
Et où mon pays.
Ça, c'est un extrait d'une suite de poèmes que j'ai écrit sur les chemins de Provence et d'ailleurs, parce que je marche beaucoup, ce qui n'est pas très original. Il y a plein d'écrivains qui marchent. Va, ceci est le chemin de l'esprit. De matines accomplies plus haut toujours, va. de l'écheveau du fleuve qui aspire au dégel, par un bosquet d'argousiers puis un maquis de chênes verts, tu gravis recrue d'épines, des lacets indécis, jusqu'au vaste pierrier. Là résonne un silence où toute vie élude le regard. Vois pourtant le ciel caresse le front du néant.
Les recueils de Alain, vous les trouverez sur le stand des éditions Bruno Doucet, et les recueils de Jean Poncé sur le stand Jacques-André Éditeur. Et vous souhaite à toutes et à tous un festival des voix vives dans le partage et l'écoute et de très belles rencontres poétiques. Merci à Technique, merci Alain, merci Jean.